La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Les temps sont durs à Porrentruy. Le HC Ajoie occupe la dernière place du classement de National League de hockey sur glace et n'est déjà plus au contact de ses principaux contradicteurs. Les Jurassiens n'ont gagné qu'un match sur l'ensemble du premier tour. Et même si la plupart des rencontres sont serrées, le constat reste implacable. Ajoie n'avance pas. Dans ce podcast, on va revenir sur les dernières sorties des Ajoulots. On va décerner cette fois davantage d'épines que d'étoiles. Et puis on abordera aussi les récentes décisions du directoire des Jaunes et Noirs. Notre invité figure au chapitre des bonnes nouvelles de ce début de saison. Le gardien Noah Patnaud est aujourd'hui avec nous.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans ce quatrième épisode de la bande du jeudi. Malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent. Ajoie ne décolle pas, n'avance pas même au classement, même si les défaites sont courtes et donc d'autant plus frustrantes. Ce n'est certainement pas mes collègues qui diront le contraire. Yann, Rafi.
Exactement. Déjà, salut Michel, heureux de te retrouver.
Heureux d'être là également.
Dans cette boîte du jeudi.
Salut tout le monde, salut les supporters du HCA. Ouais, pas de contredire, hein, on espérait beaucoup mieux, on espérait un peu plus de points. Je pense que Noah qui est avec nous aujourd'hui a le même sentiment. Et puis, c'est vrai que c'est frustrant de perdre chaque fois d'un but, de se donner des situations pour pouvoir gagner, puis finalement réussir à perdre les matchs.
Salut Noah.
Salut.
Comment tu vis justement cette situation dont on parle et dont on va parler longuement tout à l'heure?
Bah, je pense un peu comme tout le monde, hein. Je pense que c'est assez délicat. Voilà, on se le cache pas non plus avec les résultats qu'on n'est pas là où c'est qu'on voudrait être, évidemment. Puis voilà, on voit aussi récemment qu'on accroche les matchs, qu'on n'arrive pas à trouver le petit truc qui fait qu'on les gagne. Et c'est notamment un peu plus frustrant de les perdre comme ça, à chaque fois un but d'écart. Après voilà, c'est compliqué, mais ça sera aussi à nous de trouver les clés pour pouvoir lancer la machine dans le bon sens.
On va d'ailleurs parler un peu de toi, Noah, puisque tu es notre invité aujourd'hui. Toi qui joues d'ailleurs un vrai rôle, hein, dans ce HCA QV 2025-2026 aux côtés des expérimentés Cons et Chacho.
La bande du jeudi.
Noah, après cette première réaction, ben on va faire un peu un portrait de toi pour que les supporters du HC Ajoie apprennent à te connaître, et puis que nous aussi on apprenne un peu à te connaître, qu'on discute. Si je me trompe pas, t'es né le 24 décembre 2002 à Neuchâtel.
C'est juste.
Mais t'as grandi à Nau, dans le canton de Berne, dans le Jura bernois, au pied du Chasseral.
C'est juste.
T'as fait toutes tes classes juniors du côté de Neuchâtel avant de passer à Bienne. Mm-hmm. Donc première question, tu te sens plus Jura bernois ou Neuchâtel?
Bonne question. Enfin, j'habitais, ouais, on est entre deux. Je pense maintenant j'habite Lamboin, c'est entre deux, entre Bienne et Neuchâtel. Je pense être quand même plus neuchâtelois que biennois ou Jura bernois, mais c'est vrai que j'ai tout habité dans le canton de Berne, donc entre deux et là quoi.
C'est bien pour les supporters. T'as meilleur temps de dire que t'es un peu plus neuchâtelois que bernois, mais. Ben voilà, t'as fait tes classes, comme je l'ai dit, plutôt à Neuchâtel. Après, t'as joué à chez Bienne. À 17 ans, t'as pris une décision assez radicale, on va dire, de changer d'environnement. T'es parti en Ligue Junior Majeure du Québec au St. John Sea Dog. Explique-nous un petit peu ce choix de partir au Canada à ce moment-là.
Ouais, j'ai eu la possibilité d'avoir. J'ai mon père qui est canadien, donc j'ai eu le passeport depuis que je suis jeune. Et c'était une opportunité qui est venue grâce à ça. Enfin, on sait que les ligues là-bas, c'est assez fermé pour les joueurs européens, car je pense, si je ne me trompe pas maintenant, on a le droit en tout cas à l'époque, on a le droit qu'à deux étrangers par équipe. Donc j'ai la possibilité de pouvoir compter comme un joueur canadien. Et c'est une autre opportunité qui est venue aussi, notamment avec les équipes nationales. Avec les tournois, c'est là que généralement les scouts viennent voir. Et c'est un peu une opportunité qui est un peu sortie de nulle part, mais qui est venue à ce moment-là. J'arrivais pas trop à refuser ça, quoi. Je pense que c'était un rêve, en tout cas pour moi aussi, en tant qu'hockeyeur, de pouvoir faire partie de cette ligue aussi. Quelque chose que j'ai beaucoup regardé étant plus jeune. Et quand j'ai eu l'opportunité, c'est vrai que c'était assez clair pour moi d'y aller.
Ouais, moi j'avais juste une question par rapport à ton papa, canadien, qui arrive en Suisse. C'est un lien fort avec le hockey sur glace ou rien à voir? Il a joué au hockey sur glace?
Il a joué un petit peu, ouais. Il a fait un peu de hockey au Canada. Il a joué. Après ça, il est venu en Suisse à 25 ans, si je ne me trompe pas. Pour changer de vie aussi. Il avait un copain qui s'occupait d'un magasin de matériel de hockey ici en Suisse. Et il a décidé de venir pour voir comment ça allait. Il est jamais rentré, donc voilà. Il a rencontré aussi ma mère sur le tas, donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et qui vient lui du Canada, effectivement.
Puis lui, si je me trompe pas, il était aussi gardien, hein?
Il a fait gardien, ouais, il a fait gardien. Bah, c'est pour ça que j'ai aussi pris goût au hockey, à la position. Enfin, il a joué un peu quand j'étais plus petit. Il a joué en 2, 3, 4e ligue ici en Suisse. Donc quand j'étais petit, j'allais le voir. Et puis c'est ça aussi qui m'a donné un peu le goût de commencer le hockey et puis de commencer d'être gardien.
Un numéro, le 29. Une raison à ce numéro ?
Une raison, oui, j'ai toujours eu comme idole Marc-André Fleury étant plus jeune.
Pas mal comme référence.
J'ai grandi en le regardant et puis on essaie d'en être inspiré par lui, et c'est un numéro qui m'a toujours paru juste pour moi, que j'aimais bien, donc au final c'est pour ça que je le porte.
Donc lui vient de prendre sa retraite, puis toi tu débutes au Chargeois finalement. Ça fait 3 ans que tu es là, hein, parmi le HC Argeois, et puis finalement, c'est ta première vraie saison, parce qu'on te donne enfin ta chance.
Ouais, c'est clair que c'était pas, voilà, c'est pas facile. Ça fait 3 ans que je suis là. Les deux premières années, effectivement, un peu plus dans l'ombre. On a pu jouer en Ligue B, mais c'est vrai que depuis cette année, depuis que je me suis aussi blessé l'année passée, je suis revenu, je me suis senti aussi mieux. J'ai pris ce temps aussi pour pouvoir... prendre du temps à revenir plus fort aussi, et puis voilà, j'ai repris confiance pleinement, un bon entraînement d'été, et puis aussi un bon entraînement sur la glace qui a fait qu'au final j'étais prêt, et puis je me sentais aussi prêt mentalement, puis je pense que ça se voit sur la glace aussi.
Ouais, en tout cas, tu as fait preuve de beaucoup de patience, hein, ces 2 dernières années. L'année passée, tu parles de cette grosse blessure, ça à 21, 22 ans, ça change quelque chose dans la progression d'un gardien? T'as eu le temps de peut-être réfléchir ou de changer peut-être des choses dans ta manière d'aborder la carrière, ta position, ou je ne sais, quelque chose?
Ouais, c'est assez complexe, c'est assez compliqué aussi. Enfin, j'ai eu une première blessure ma dernière année au Canada, quand j'avais 19 ans aussi. C'était ma première blessure vraiment majeure où j'avais besoin d'opération, donc c'est vrai que ça me met un choc, ça te remet aussi en question. Et là, effectivement, ça vient au mauvais moment aussi. Et puis ça donne un coup de frein. Après, c'est clair que ça m'a pas forcément remis en question surtout. C'est clair que voilà, c'est décevant, c'est des choses qui arrivent. Mais au final, j'ai toujours eu cette confiance depuis que je suis arrivé, qu'un jour, avec le travail et mon sérieux aussi, je pense que j'allais avoir l'opportunité de pouvoir me montrer. Et je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais quitté mon esprit. Donc au final, j'ai pris aussi ce temps pour pouvoir prendre du temps pour moi et revenir plus fort. Et voilà, ça a payé aussi.
Les dernières saisons, tu les vois comme des années perdues, entre guillemets, en Swiss League, cette transition en quelque sorte, où tu as quand même réussi à acquérir des éléments particuliers là-bas?
Non, saison perdue, non, il n'y en a pas. De toute façon, qu'on joue en Ligue B ou pas, je pense qu'au final, on joue au hockey. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qu'on a cette chance aussi de jouer au hockey. Donc voilà, c'est quelque chose que chaque jour... d'être un peu plus soi sur terre, à se dire que c'est quelque chose qui est pas garanti, surtout quand on fait face à des blessures comme ça qui peuvent te mettre loin longtemps ou qui peuvent te questionner ta carrière. Mais c'est clair que non, je trouve pas ces saisons comme perdues. Je pense que c'est un apprentissage aussi de prendre ça avec et de se dire que ça fait partie de soi aussi.
Avec la mode des gardiens étrangers, hein, en National League, bah, les places sont chères, hein, donc c'est vrai que c'est pas forcément une année de perdu de jouer en Swiss League. C'est un peu un passage obligé, je pense. Après, moi, vu ton âge, vu aussi la situation de Benjamin Kons et puis d'Amenio Chacho, on va dire que t'es un peu quand même l'avenir du HCA Ajoie. Dans l'organigramme du HCA Ajoie, on te fait sentir qu'on compte beaucoup plus sur toi maintenant pour les années à venir.
Ouais, bah c'est clair que depuis voilà que je suis revenu de la blessure, je me suis senti aussi plus intégré entre guillemets dans cette rotation à 3, enfin en tout cas depuis cette année. Et voilà, j'ai eu de façon des discussions aussi qui m'ont dit qu'ils allaient aussi avoir confiance en moi, qu'ils ont vu voilà que je m'étais bien préparé, que je m'étais bien entraîné et puis que ça se voyait sur la glace et qu'ils me feraient confiance et c'est ce qu'ils ont fait aussi voilà pendant les matchs je pense de amicaux où c'est que j'ai eu la chance de pouvoir jouer des matchs contre des équipes de Liga. Je pense que ça m'a fait du bien et puis ça m'a fait aussi du bien de voir que je tiens la route aussi et puis qu'au final j'ai le niveau. Donc après c'est des trucs qui booste la confiance, puis au final, bah, c'est des choses qui font grandir. Ouais.
Tu parles de cette rotation à trois, là, c'est la question qu'on se pose. Comment, est-ce que c'est facile à vivre, ce ménage à trois gardiens? Comment vous le vivez, là, à gérer les matchs qui arrivent, notamment le prochain week-end, là, où il y a deux matchs, un match le vendredi, un match le dimanche? Bah, je pense qu'aujourd'hui, quand on enregistre cette émission, j'imagine que tu es encore dans l'inconnu pour savoir si tu joues ou tu joues pas.
Ouais, non, on sait pas, mais c'est vrai que. Bah déjà, on a une bonne relation les trois, on s'entend très bien. Je pense que c'est quelque chose qui est important d'avoir une relation saine et pas avoir de voilà cette compétition mais pas négative. Et c'est ouais voilà, c'est comme bah pendant ces deux dernières années, j'ai beaucoup attendu ma chance aussi. Maintenant, je vois que ça tourne un peu plus, mais c'est toujours la même chose. Je pense au final les trois on a envie de jouer. Et au final, on se pousse l'un à l'autre pour pouvoir avoir du temps de jeu. Et je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous.
Mais au final, on arrive vraiment à progresser quand on est jeune comme toi, qu'on joue un match, qu'on est plutôt bon, qu'on est ressorti, qu'on est réintégré, qu'on n'a jamais 3, 4, 5, 6, 7, des fois 8 matchs de suite, peut-être comme dans certains autres clubs. Est-ce qu'on arrive vraiment à progresser comme tu le souhaiterais?
Bah, je pense que si on regarde aussi ce qui se passe en Liga, j'ai pas l'impression qu'il y a forcément un gardien voilà, à part si on regarde à Lausanne avec Kevin Pache, mais je pense pas qu'il y ait un gardien jeune vraiment qui a énormément plus de temps de jeu. Je pense que cette phase où on est un peu voilà, deux, troisième gardien où on tourne un peu plus, je pense que c'est quelque chose où c'est qu'on doit passer au travers. Mais les matchs qu'on me donne, je les prends et puis je donne le meilleur de moi. Et puis c'est des choses qui, comme j'ai dit, qui au final me font grandir. À chaque match, je me sens aussi de mieux en mieux. Et après, c'est des choses qui allaient à mon jeu aussi, ça rend plus facile.
Le débrief. Voilà, il est temps maintenant de passer aux étoiles, de décerner les étoiles, ou plutôt les épines, si j'ai bien compris, Rafi, de ces dernières sorties. Tu t'es plutôt arrêté sur ce qui ne fonctionne pas forcément très bien actuellement au HCA.
Ouais, c'est exactement ça. J'étais franchement un peu mal à l'aise à l'idée de décerner des étoiles comme si de rien n'était. La situation est loin d'être top, et si vous êtes d'accord, donc j'aimerais donner plutôt 3 épines et une étoile. Sur ces derniers temps, le bilan comptable, c'est 4 matchs, 4 buts depuis la dernière émission. Les buteurs, c'est Roman Engi, Robin, Motet et Turkulainen. Et le bilan powerplay, c'est un but marqué et un but encaissé. Donc, on voit où le bas blesse. Et pour ne pas tourner en rond, ça c'est mon introduction, j'arrive aux épines. Je ne vais pas non plus taper sur Niklas Freeman qui a été mis sur la touche lors du dernier match. Alors, 3 épines, donc des épines, je les décerne à Julius Nettinen, qui pour moi, clairement, c'est le moins bon et presque le moins influent aussi des attaquants du HCA Ajoie. Je dis ça alors que face à Lugano dimanche, c'est encore lui qui a obtenu les meilleures chances de faire la différence avec quelques situations devant Niklas Schlegel. Et cette image, quoi, chaque fois qu'il a cette possibilité entre guillemets, de se décoincer, ben, il passe un peu à côté, comme son action de dimanche, là, quand il se retrouve seul à la 16e minute sur le breakaway, mais aussi à Ambry, où il a une occasion après juste 25 secondes de jeu. Ajoie doit vraiment compter sur la force de frappe de Nettinen. C'est typiquement le genre de joueur qui produit quand il est en confiance. Est-ce qu'il est en confiance en ce moment, notamment pour play? Ben, la réponse est clairement non. Vous pensez quoi de ces épines?
Ah, effectivement, Rafi, hein, Nettinen, on attend plus de lui. L'année passée, il a été très productif, notamment en powerplay. Netinen, pour moi, c'est le type de joueur, c'est un sniper, c'est un gars qui doit être entouré pour pouvoir marquer des buts. Début de saison, l'absence de Turkulainen, pour moi, s'est fait sentir. Et puis, on le voit depuis que aussi Turkulainen est revenu, on retrouve un Netinen qui est dans son jardin, là, en haut des cercles. Et puis, si on arrive maintenant à l'alimenter, il faut qu'il retrouve cette confiance. Donc, la confiance, elle n'est pas là. On l'a dit, ce breakaway contre Lugano, ces occasions contre Ambry, il manque pas grand chose. Je crois que c'est, je sais plus contre quel match, mais il a un shoot en power play qui finit sur l'arrêt du poteau. Si ça finit dedans, ça peut le débloquer. Là, ça finit, pour l'instant, c'est un peu à l'image de Hachajois, ça finit sur le poteau. Et puis, ça mine un petit peu. Et puis, on voit que c'est un joueur qui est quand même pas non plus en confiance pour l'instant.
J'abonde totalement dans ce sens-là. Je crois que le breakaway, il est symptomatique un petit peu de la situation. C'est un joueur qui, quand il rayonne, on a plaisir à le voir jouer. Quand les stats marchent moins, c'est un peu un nonchalant comme ça, ou un faux nonchalant qu'on n'a pas forcément envie d'adouber. Et puis, on est un peu dans cette situation-là. Je crois que le breakaway, il est assez symptomatique. On le voit partir et... Enfin, personnellement, de l'extérieur, je me dis, c'est pas possible qu'il va marquer comme ça avec l'attitude qu'il a là. Et c'est typiquement une attitude, je pense, d'un joueur qui est pas en confiance et qui a besoin justement d'un déclic. Et ils sont nombreux dans ce cas-là. On l'a aussi dit depuis le début de ce podcast, le HC est tributaire de ses étrangers. Ça, c'est pas un scoop en soi. Netinen, c'est un but depuis le début de la saison. Alors que c'est le sniper attitré de l'équipe, je crois que ça résume assez bien la situation dans laquelle est le HCA et le fait que les étrangers marchent pas assez, marche pas bien, ça pèse énormément évidemment sur les résultats.
Le problème, c'est aussi un petit peu lui, c'est aussi un petit peu les joueurs qui l'entourent aussi, il n'arrive pas, ses lignes de passe sur Netinen, sa force de frappe qui n'arrive pas. J'enchaîne avec les deux épines, c'est son collègue de ligne, c'est pour moi Pierre-Édouard Belmar qui n'arrive pas cet automne-là. C'est pas le Belmar de la saison passée, il a pas cette influence sur la glace qu'il affichait il y a encore quelques mois. On attend de lui qu'il emmène sa ligne, mais voilà, aussi toute l'équipe. Bon, il n'est pas en réussite, toujours pas un goal dans son escarcelle cette saison. Après, je ne vais pas faire le raccourci facile, genre plus de 40 ans, joueur essoufflé, car ça reste un vrai professionnel dans l'attitude et la préparation. On est tous bien placés pour le savoir. Mais voilà, là, je le trouve en dedans. Pour moi, c'est une déception pour l'instant. Et je veux encore dire que dimanche face à Lugano, il a perdu beaucoup d'engagement. Et je crois qu'il devait être aux alentours des 36%. Et le HCA doit les gagner, s'ils visent en jeu, notamment en situation de power play.
Je partage aussi, c'est clairement les épines que j'aurais mises, les deux en priorité également. La stat, elle résume tout, je pense, un 14 matchs, 0 but marqué pour un centre étranger de première ligne. C'est évidemment trop peu. On peut pas se contenter de ces artifices techniques parce qu'il y en a. On voit aussi la passe qui met Netinen typiquement sur le breakaway de Lugano. Si on revient sur celui-là, elle est belle, elle est lumineuse, mais ça suffit pas. Et au niveau des points, c'est là qu'on a besoin de nos étrangers. C'est surtout dans les points, peut-être même davantage que dans l'attitude et dans cet aspect travailleur ou bon défensivement qu'il a. Actuellement, certes, défensivement, il tient parfois la baraque, il vient mettre des charges, il est présent dans les arrondis. Mais là, on attend un étranger et un centre comme lui, c'est dans le côté prolifique dans une équipe comme le HC Ajoie. Et si la saison passée, il a très bien trouvé ce mix, ou plutôt bien trouvé ce mix entre la contribution défensive, évidemment le leadership et puis les points, cette année, il peine totalement. Enfin, il est même presque absent des statistiques, donc c'est clairement insuffisant. Et tu l'as dit, les mises au jeu, ça manque aussi un petit peu. Donc clairement, pour moi, c'est aussi une des mauvaises surprises de ce début de saison.
Oui, on est un peu sévère avec lui parce qu'on connaît le talent, on connaît l'homme, on connaît ses qualités. Et puis on attend plus de lui, effectivement. Et puis moi, je suis quand même confiant parce que je reviens à nouveau avec le retour de Turkulainen. On va retrouver cette ligne qui a joué ensemble l'année passée. Turkulainen, il a besoin de quelques matchs mettre dedans, et puis peut-être que justement on va décoincer Netinen, puis après c'est le chemin vertueux, quoi. Si tout le monde lève un peu d'un step le truc, retrouve la confiance, cette ligne elle peut recartonner dans deux semaines ou déjà vendredi, et puis tout le monde sera content. Moi je suis d'accord avec vous pour les épines, parce que on attend plus d'eux, parce qu'ils ont des qualités, on les connaît, ils ont montré. Après il faut dire aussi que on a beaucoup insisté sur le côté défensif au Hachajois en ce début de saison. Et puis quand on met des joueurs dans un système défensif très strict, on leur enlève des fois un petit peu leur brin de folie en attaque. Et puis moi, je le répète encore, c'est ce qui me manque pour l'instant, cette brin de folie en attaque, puis la liberté qu'on donne aux attaquants.
Eh ben, ça tombe bien, Yann, parce que tu parles un petit peu de brin de folie, d'instinct offensif. C'est mon épine numéro 3. Une épine, je vais la donner à Kylian Motet, là, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on attendait bien plus de lui en ce début de saison. Bon, il a marqué un but ce week-end à Ambry, un joli but au passage, là, sur une mauvaise relance tessinoise, mais là aussi, hein, quand on parle de manque de confiance, on est en plein dedans. C'est pour l'instant un petit peu ce qu'on redoutait quand il a signé en Ajoie. Là, la question était à l'époque, arrivera-t-il à être un homme d'influence dans le jeu? Et puis pour l'instant, c'est plutôt non. Et moi, ce qui me surprend, c'est qu'on le voyait très actif en début de saison. Il voulait provoquer les choses, parfois même un peu en jouant solo. Et là, il me semble qu'on le voit un peu plus effacé dans ses intentions ces derniers temps. Est-ce qu'il a un petit peu trop muselé? Pourquoi il a perdu un petit peu ce great folie, voilà. Doit-il jouer un petit peu plus sur l'instinct? C'était un petit peu mes considérations sur Kylian Motté.
Ouais, exactement. Dans ses réactions, on le voit. Hein, mais ouais, moi, je trouve qu'il tente quand même pas mal. Hein, il essaye. Des fois, peut-être pas tout juste, justement, mais ça, c'est aussi c'est symptomatique du HC Ajoie. On tente des choses, mais qui sont pas forcément justes. La passe de trop quand il faudrait shooter, ou le shoot quand il y a justement un coéquipier qui est libre. Mais on le voit dans l'attitude, hein, quand même. Ça reste quand même un joueur qui aime marquer, qui aime gagner, et puis on le sent frustré aussi ces temps. Donc qu'est-ce qu'on va dire, à part qu'on aimerait justement que ça se débloque pour lui, pour tout le monde, pour qu'on puisse nous voir un chargeur gagner, qui soit victorieux un peu plus souvent.
Oui, entièrement d'accord. Hein. On voit que c'est un joueur qui est dans une situation qu'il connaissait pas forcément, hein, et qui se retrouve un petit peu les bras le long du corps, à pas trop savoir quoi faire, à chercher ses marques individuelles d'une part, à essayer de contribuer à un collectif qui est pour l'instant pas là où il devrait être et où il voudrait être. Comme tu l'as dit, Rafi, ça reste un pari, hein, en début de saison, Kylian Motté, un joli pari sur lequel on aimerait continuer à croire, évidemment, parce que c'est un gars qui a un énorme bagage, d'énormes qualités indéniables aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça en reste un petit peu au stade de pari, et puis hormis quelques artifices qu'on a pu voir, ben voilà, ça manque un petit peu, mais j'ai envie de dire que c'est un collectif dans son entier qui est actuellement à côté de ses patins, qui est en total manque de confiance, et on ne peut qu'espérer que le coach mental dont on parlera tout à l'heure fasse cet effet, crée ce déclic dans la confiance, parce que c'est clairement aussi là que ça pêche, parce que des gars comme Motté ou Netinen, on peut quand même être assez convaincu que s'ils en collent un ou deux de suite, ben que la locomotive sera lancée, quoi.
On a un gars qui est ici avec nous, hein. Il les côtoie tous les jours à l'entraînement, il se fait shooter dessus toute la longueur de l'entraînement. À l'entraînement, tu sens des joueurs qui sont libérés dans les shoots, qui sont en confiance, ou comment tu les vois, justement, ces attaquants
Non, justement, je pense que voilà, le mot il était dit, hein, la confiance, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la chose qu'on a en ce moment, mais non, on connaît les qualités des trois, de toute façon, c'est des joueurs dangereux, on le voit, je le vois aussi à l'entraînement, hein, c'est des gars qui savent offensivement bouger le puck, le tirer, tout ça, donc c'est pas forcément quelque chose qui pose problème, c'est, voilà, je pense que c'est de la confiance qui doit revenir aussi, je pense que c'est quelque chose qui... un déclic qu'il doit aussi avoir, mais je pense que, comme on l'a dit avec, par exemple, Natinen, Ambry tire sur le poteau, enfin, si ça finit au fond, je pense que ça peut être aussi une histoire complètement différente. C'est des buts, je pense, qui auraient pu lui faire du bien, mais je pense que j'ai pas trop de soucis à me faire qui l'en marquera dans le futur.
Et Michel, avant, c'est terrible, tu disais que Belmar, il était absent des tabelles statistiques, alors qu'il est en tête... Des compteurs du HC Ajoie, ouais, avec zéro but,
ouais, hein, ouais. Alors, égalité, il a 6 assists quand même, ouais.
Cas, c'est quand même révélateur, et voilà, de la situation actuelle du HC Ajoie. Bon, on va finir quand même avec une bonne note et puis une étoile, parce que j'ai quand même une étoile à décerner pour ce podcast. Ben Noah, c'est pour toi. Je crois que c'est un petit peu la chanson de ce début de saison, où on décerne volontiers des étoiles à nos invités, mais elle est méritée pour tes prestations ces derniers temps. On l'a dit, hein, dès cet été, que tu pouvais être une des révélations jurassiennes, et puis t'as la confiance du coach à la maison, parce que je crois que t'as été titularisé lors des 3 derniers matchs à domicile, hein, c'est ça, hein, et tu fais preuve d'une vraie sérénité devant le but, et je te trouve solide et bien dans les matchs, voilà. Il te manque juste une grosse victoire, hein, ce gros succès pour asseoir un peu plus ton statut. D'ailleurs, on l'a un petit peu évoqué avant, la question, c'est vraiment quel est ton statut dans cette configuration à 3 gardiens, voilà, quoi. J'imagine aussi que pour Benny Damiano, ça ne doit pas être évident, comme on l'a dit avant, au niveau de la préparation des matchs. Donc voilà, cette étoile, elle est pour toi.
C'est gentil, merci. Non, mais je pense qu'en revenant sur ça, c'est quelque chose, voilà, qui n'est pas simple pour... pour tout le monde, je pense. On a vu aussi avec Benji au début de la saison où c'était un peu lui qui jouait moins. Et maintenant avec Damiano, mais c'est vrai que voilà, ce tournus c'est un peu spécial, oui, mais je pense qu'au final ça reste quelque chose de sain. Je pense que ça reste une bonne compétition aussi, donc c'est quelque chose qui est bien pris, ouais.
Ouais, je trouve que ça fait du bien, cette fraîcheur aussi. Non pas que je dénonce Benji ou Damiano, loin de là, hein, mais ça fait du bien de voir qu'il y a de la relève, de voir aussi autant de sérénité. C'est vrai que c'est peut-être ce qu'on pouvait craindre en début de saison, hein, quand tu arrives de Swiss League avec une longue blessure qui plus est. Mais tout de suite, j'ai trouvé dans les matchs amicaux que tu étais bien dedans. Pourtant, tu as joué contre, j'ai Rapi en tête et je sais plus qui c'était l'autre, mais
Genève, je crois.
Genève, ouais, c'est bien possible, ouais, des équipes de National League. Mais tout de suite, voilà, non seulement bon dans les interventions, mais aussi en dégâts. Beaucoup de calme, de sérénité. Je crois que tu parviens, malgré ton jeune âge et globalement quand même ton peu d'expérience à ce niveau-là, à rassurer tes défenseurs et je pense que c'est de très très bon augure pour la suite, quoi.
Oui, raconte-nous encore juste l'épisode de la séance de tir au but à Bienne. C'était, je pense, un moment particulier. Comment t'as vécu, ça? T'es à la banque, t'imagines pas une seconde que tu devras effectuer un arrêt crucial, genre 15 secondes après, quoi. C'est quelque chose de complètement fou. Comment t'as vécu?
Non, bah, une grande première, hein. C'est quelque chose, c'est la première fois que ça m'arrive, effectivement. Après, bah voilà, on sait très bien que c'est une possibilité qu'on a au hockey de pouvoir changer les gains comme ça. C'est quelque chose que, alors j'étais pas prêt, ça c'est sûr, hein. Ça n'a pas traversé mon esprit de rentrer en séance de tir au but, mais c'est vrai que voilà, on a encaissé les trois premiers et ouais, c'est vraiment venu nulle part, quoi. Il me dit d'y aller, donc il n'y a pas trop de questions à se poser, on y va, puis on essaye de faire le job. Après voilà, on a réussi un peu à remonter, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est assez délicate. Après, c'est aussi les aléas du job, donc ouais, faut y aller et puis faire le maximum, quoi.
Ouais, pour ton étoile, Rafi, ben ouais, moi je la partage, hein, la donner à Noah, c'est tout à fait juste. Je la partagerai aussi en partie justement avec ses deux compères, avec Benji et puis Damiano, parce que je pense que les trois gardiens, à chaque fois qu'ils ont été appelés à être titulaires, ont fait le job. Et tout le monde a répondu présent. Pour l'instant, on n'a pas vraiment un gardien qu'en dessous, donc ça complique aussi un peu le coach dans ses décisions, mais c'est aussi une bonne chose. Ouais, pour appuyer cette étoile, moi, Noah, je trouve que dans ses points forts, il a une vitesse de jambe qui est assez extraordinaire. Le HRJ a partagé sur les réseaux sociaux des highlights du dernier match. On voit là vraiment la vitesse de déplacement des patins et puis des jambières. Plusieurs fois, il fait des big saves en allant chercher le patin avec ses jambières, les pucks en bas. Il est très solide dans le bas du filet. Il pourrait être un peu, pas méchant, mais pour lui donner des conseils à chaque... Encore son point faible, peut-être quelque part, c'est le haut du filet, mais c'est un peu le problème de tout le monde. Encore cette nuit, on a vu Montréal gagner un match en prolongation avec un but de Caulfield dans la lucarne au premier poteau. On a un style de jeu de one pad down, ça s'appelle, où c'est qu'on met une jambière par terre. Puis malgré que tu fasses 1m86, y a encore pas mal de pucks qui passent au-dessus de ses épaules.
Ouais, c'est je pense, voilà, un peu un problème général pour tout le monde, hein. On voit aussi avec les grands gardiens aussi, même si on regarde dans la Ligue ici en Suisse ou NHL, je pense que voilà, le jeu devient aussi que les attaquants savent aussi, sont très habiles, donc c'est des choses aussi où c'est qu'on doit faire attention. Après, c'est des jeux qui arrivent comme on le voit partout, je pense, donc mais c'est vrai que ça fait toujours un peu plus décevant de prendre un but voilà, quand on le prend en haut du poteau comme ça, mais il y a des fois où c'est que on donne crédit aussi aux joueurs. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines fois aussi où c'est que on est responsable, et puis voilà, c'est aussi le job où c'est qu'on apprend la responsabilité sur ça, mais je pense que c'est un peu un mix de tout, quoi.
Est-ce que j'ose poser une question concernant ton avenir, comment il se dessine? Tu sais déjà de quoi il sera fait? Est-ce qu'on compte sur toi ici à plus moyen terme? Il y a déjà des discussions ou des choses dans ce sens, où tu es pour l'instant?
Alors, j'ai pas eu forcément de discussion. Écoute, je prends vraiment le temps comme il vient. Pour l'instant, voilà, c'est aussi une adaptation aussi pour moi, enfin, ce début de saison, de devoir jouer tout ça. Donc, J'essaye pas de regarder trop loin. J'essaye vraiment de, voilà, de prendre les matchs comme ils viennent. Quand on, si on me dit que je joue, que de jouer, puis de juste faire attention à ça, quoi. Je pense que le reste, si ça doit se passer, c'est des choses qui viendront avec le temps aussi. Mais pour l'instant, je ne regarde pas trop loin, non.
Avec la priorité du HA Joie, peut-être maintenant, c'est pas de re-signer tout de suite les joueurs, mais c'est vrai que si les prestations que Noah enchaîne ces derniers temps continuent dans ce sens-là, je crois qu'il n'y aura pas de gros dilemme à se faire du côté du HA Joie. Je crois qu'on doit compter sur Noah Patnaud pour les prochaines années. Puis je serai Julien Vauclair, je le ferai quand même assez rapidement. Parce que si des autres clubs de National League le regardent jouer un petit peu, ça peut donner des envies à des autres clubs aussi. Donc si on peut verrouiller ce poste, ça serait une bonne chose.
La bande du jeudi.
Voilà, on va peut-être s'arrêter quelques instants sur l'actualité de la semaine, ce communiqué qu'on a reçu en début de semaine, qui indique que le HCA donc, s'est attaché les services d'un coach mental, Dave Scott, également que le HCA ne mettra à disposition des médias plus qu'un seul joueur et l'entraîneur, donc une forme de... On va dire que les joueurs sont désormais recentrés sur eux-mêmes. On a maintenu la confiance en Greg Hyland. Ça, c'est aussi l'annonce qui a été faite en ce début de semaine, quelque part en réaction. D'une part au résultat, aussi peut-être à la grogne du public qu'on a pu apercevoir dimanche à Porrentruy. Comment est-ce que vous avez, vous, accueilli ça, messieurs ?
Il y a deux éléments. Il y a l'élément d'engagement du coach mental et puis ce message du conseil d'administration. Et puis, il y a la restriction... fait aux médias par rapport aux joueurs. Moi, évidemment, en tant que représentant des médias, je suis particulièrement affecté et déçu de cette manière de procéder du club, voire même, c'est presque un coup de gueule parce qu'on ne joue pas avec le rôle des médias, quoi. On n'est pas un levier pour motiver les joueurs ou bien pour créer je ne sais quel esprit de corps, quoi, ou quoi que ce soit. On est là pour faire notre job, pour raconter les événements tels qu'ils sont, analyser, décrire les situations de jeu, mais aussi de la saison, quoi. Et puis, on sert aussi de relais quelque part entre l'équipe et puis le public, et puis je pense que c'est important. Et je suis déçu que ça se passe comme ça, même si c'est pas une première au HCA Joie. On l'avait déjà vécu à l'époque lors du barrage face au HCC. Voilà. Puis j'aimerais aussi dire que moi, en tant que journaliste, j'ai jamais vu un joueur tirer la gueule face à nous quand il est venu à l'interview. J'ai l'impression qu'ils le font souvent aussi, presque avec un certain plaisir, quoi. Voilà, ça fait partie du job. Ils doivent prendre leurs responsabilités, voilà, quoi. Et donc, c'est dommage, mais après, voilà, quoi, on est aussi heureux que Noah Patnaud soit avec nous aussi aujourd'hui pour partager ce moment dans cette botte du jeudi.
Ouais, moi, j'abonde vite en ton sens. Hein. Je trouve qu'on se trompe clairement de cible. Enfin, je vois pas non plus que les médias viennent jouer comme rôle au milieu. Quand on voit le temps, en tout cas, je pense que le QJRFJ, on est les médias les plus présents à la patinoire. Quand on voit le temps qu'on prend aux joueurs, je pense que c'est pas forcément ça qui explique les mauvais résultats actuels. Donc, je pense simplement qu'on se trompe de cible. Et on a aussi peut-être voulu un petit peu éteindre l'incendie qui a commencé dans la patinoire en proposant certaines mesures. Celle-là, à mon avis, n'en est absolument pas une qui est crédible. Pour nous, c'est aussi décevant, comme tu dis, on se fait volontiers le relais aussi de l'équipe auprès du public, on va volontiers aux entraînements, après les matchs, récolter des réactions, ça fait partie du job, tant de nous, c'est pour ça qu'on a choisi ce métier-là aussi, que des joueurs, je pense aussi effectivement qu'ils ont parfois, en tout cas, j'espère souvent, le plaisir de pouvoir échanger avec nous, et puis ça, c'est quand même un grand pan de notre métier qui est mis un peu de côté, pour un certain temps en tout cas. Et puis l'aspect coach mental... Moi, je dis pourquoi pas, effectivement. Ça se fait de plus en plus individuellement. On sait qu'il y a déjà des joueurs du HCA qui ont recours. Les équipes aussi, certaines équipes en ont. Même déjà des préparateurs mentaux. La question, c'est de savoir peut-être est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu avant, peut-être connaître un début de saison difficile, se munir d'un préparateur mental quand on sait que les débuts de saison n'ont jamais été forcément très bons à Porrentruy. Est-ce qu'on aurait peut-être pas dû anticiper un tel scénario et peut-être avoir recours à ce genre de personnes assez un peu plus tôt. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que c'est quelqu'un qui a un sacré bagage, hein, tant d'un point de vue mental, enfin de préparation mentale, que d'un point de vue hockeyistique, hein, quelqu'un qui est attaché au Canadien de Montréal, qui a déjà préparé aussi ou qui a adapté des entraînements à Fribourg il y a quelques années. Il y a eu des bons échos, des moins bons, parce que c'est forcément un exercice auquel on s'adonne des fois un peu par défaut, puis auquel on adhère ou pas forcément. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, hein, ce Dave Scott. Et puis, on ne peut qu'espérer, évidemment, abonder, saluer aussi quelque part la décision du comité directeur, hein, qui cherche des alternatives. C'en est une. C'est une possibilité de solution. Et puis pour moi, c'est positif quand même d'essayer de trouver un échappatoire à cette situation qui est compliquée.
dans la situation du HC Ajoie, je pense que l'appel d'un coach mental, elle est assez logique. Moi, je suis un défenseur justement de l'approche mentale dans le sport. Les détails sont tellement importants, tellement infimes. La différence entre les joueurs se fait vraiment sur des détails. Et puis, on le voit dans tous les sports. Un coach mental, c'est bientôt une obligation dans le sport de haut niveau. Alors, on en fait appel maintenant en pleine crise du HC Ajoie. Je pense que ça doit devenir quelque chose qui doit être pérennisé, qui doit être là depuis le début de saison. Plusieurs autres équipes de Liga en ont à l'année. On a Lausanne qui, par exemple, font appel 3 à 4 fois par année pour des team building particuliers durant un certain laps de temps. Et puis, dans le coaching staff, dans le staff du HC Ajoie, un coach mental maintenant, il a totalement sa place. Comme toutes les autres équipes de Liga aussi ont des skill coach pour justement travailler. Quand on a un Netinen qui est en manque de confiance, on doit aussi travailler avec un coach mental et puis aussi des coachs de technique sur les shoots et puis sur les décisions sur la glace, parce que le hockey, ça va très vite, et des décisions en une fraction de seconde. Et puis on doit être vraiment, finalement, comme des Formule 1, avoir un staff autour de nous qui nous prépare au maximum. Et puis le HC Ajoie doit étoffer ce staff dans ce sens-là.
Ouais, moi je suis d'accord avec vous, je vous comprends. Là voilà, quoi. Si c'est une clé qui peut servir au HC Ajoie de redécoller, oui, pourquoi pas. Après, moi, sur la globalité du moment, je me pose une question. Est-ce que c'est une décision ou une non-décision, quelque part? Est-ce qu'on n'entendait pas autre chose à ce moment-là de la saison?
Est-ce qu'on n'enterre pas le problème avec ça, en quelque sorte?
Le HC Ajoie reste quand même sur 8 défaites. Moi, j'ai l'impression que depuis 2 semaines, on a l'impression que le déclic va arriver, puis qu'on l'attend, puis qu'on se dit, si on gagne le prochain match, ça sera bon. On se l'est dit il y a 2 semaines avant le match face à Langnau, on se l'est dit la semaine passée avant le match face à Ambry, et puis là maintenant on a vendredi Kloten, et puis on se dit on a ouvert la boîte à pharmacie, on a vu un petit peu des affectants, des sparadraps, et puis on espère, j'espère et peut-être que c'est le bon remède, mais voilà quoi, si ça marche pas, on fait quoi? Est-ce que c'est une décision ou bien est-ce que c'est plutôt une non-décision? Alors peut-être qu'il faut se conforter dans ce choix-là, que le système fonctionne plutôt bien, que l'équipe défensivement elle tient plutôt la route, et puis qu'il manque un petit peu cette grinta. Alors si le coach mental dans ce sens-là peut apporter ce petit truc en plus, pourquoi pas? Mais la question, c'est est-ce que c'est une décision ou une non-décision?
Oui, enfin, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai l'impression aussi qu'on passe un peu de la pommade en disant on a quand même fait quelque chose, parce qu'effectivement, on croit en ce système, parce qu'aussi, je pense que trouver un nouvel entraîneur maintenant, c'est somme toute pas évident, ça c'est clair et net. Le marché, il est quand même ce qu'il est. Certainement que c'est quand même une opération qui est compliquée de changer d'entraîneur à ce moment-là, dans la situation actuelle, de trouver le profil adéquat. Mais le fait est que, on s'attendait peut-être à d'autres décisions plus forte. Celle-ci, on le mérite d'aller dans un sens, certes, mais peut-être, comme je l'ai dit avant, d'atténuer un incendie ou de calmer un début d'incendie pour montrer qu'on fait un geste aussi, parce que le public, on compte sur lui, parce qu'on comprend son mécontentement, mais qu'on veut pas trop se mouiller quand même et qu'on n'a pas forcément de plan B actuellement et qu'on espère aussi, comme tu dis Rafik, qu'avec un petit coup de pouce, effectivement, un système qui marche bien, des joueurs un petit peu en manque de confiance, puissent surmonter un début de crise, n'ayant quand même pas peur des mots. Car effectivement, ces temps, peu de différence entre les équipes, on voit que ça joue quasiment tous les derniers matchs sur un but d'écart, donc effectivement ça joue à peu de choses, et peut-être que ces simples adaptations vont pouvoir changer la dynamique.
Ouais. C'est aussi dire qu'on a confiance en cette équipe, quoi. Je pense que le club là le montre, la confiance aux joueurs, à ceux qui sont là. On entend, je pense que tout le monde entend la grogne qui monte dans les travées de la Raiffeisen Arena, les supporters depuis pas la première fois depuis 5 ans, mais aussi fort quand même. On voit quand même que les gens commencent un peu à avoir un ras-le-bol. Mais ça doit piquer dans l'orgueil des joueurs et puis juste les booster, parce que quand même, on n'est quand même pas loin. Moi, je suis quand même d'accord de dire qu'on n'est pas loin à chaque match, qu'on a les moyens de gagner. Et puis, il faut que l'équipe se secoue pour trouver les réponses, puis comment inverser cette spirale. Mais voilà, aussi, la situation est ce qu'elle est. Le plan B, bien sûr que si on était Zurich, on irait chercher des joueurs à quelques millions et puis on renforcerait l'équipe de tous les côtés. À Ajoie, on est l'équipe qu'on a et puis on doit faire ce qu'on a. Moi, je trouve qu'on a des joueurs de qualité. On a eu des ajouts comme Jérémy Vic, comme Motet quand même, qui ont de l'expérience. Et puis on a, je pense, la qualité vraiment dans ce club pour pouvoir gagner des matchs.
dans l'œil de la Vouivre.
Voilà, alors on va terminer comme d'habitude cette émission un peu plus en légèreté que tous ces gros dossiers dont on vient de parler avec le quiz. 5 questions auxquelles vous répondrez, messieurs. Une dernière pour nos auditeurs qui peuvent gagner un joli cadeau estampillé. Bande du jeudi, focus donc sur les prochaines échéances des Vouivres. Alors on a pour habitude de laisser du temps, un petit temps d'avance à notre invité dans ce quiz. Pour cette première question, on va faire l'inverse et vous comprendrez rapidement pourquoi. En 2022-2023, notre invité Noah Patnaud a partagé la cage d'une équipe de Swiss League avec un gardien que le HCA retrouvera très prochainement. Qui est-il ?
Alors attends.
Un Tessinois, enfin italien, qui jouait dans un club tessinois.
Donc on est à Ambri là, c'était un gardien qui était à Ambri à l'époque et qui doit être désormais du côté de Kloten. Avec la blessure de Ludo Weber, donc c'est Monsieur Fadani, Davide Fadani.
Bien joué, voilà. Davide Fadani, gardien de Kloten, et qui le fait très bien. Hein. 92,5% d'arrêt pour Fadani, qui fait un très très bon début de saison. Il était à l'époque au Ticino Rockets, hein, avec toi Noah, aujourd'hui Bellinzone évidemment. Rapperswil, c'est la grosse bonne surprise du début de saison. Les Saint-Gallois sont actuellement 3e. Le coach Johan Lundskog fait des miracles, on peut le dire comme ça. Le Suédois n'en est pas à son coup d'essai en Suisse. Il a déjà occupé 2 autres bancs, un en tant que principal, l'autre en tant qu'assistant. De quel club parle-t-on ? Là, Noah, tu es au même stade que les autres. Lundskog.
Bon, il y a Berne déjà.
Berne, oui, en tant que principal, évidemment. Et l'autre, c'est un peu plus difficile en tant qu'assistant. Il était avant Berne, 2021-2023 à Berne, 2019-2021
à... Il n'était pas l'assistant de Grönborg à Zurich ?
Non.
Je confonds.
Il était dans les Grisons, à Davos. Voilà, il était donc assistant du côté de Davos.
Bah, juste, moi, je n'ai pas de réponse, donc je vais dire autre chose. Mais bah, Rapperswil, comme tu l'as dit, c'est le miracle des débuts de saison. Il fait des miracles là-bas. Et puis, bah, c'est juste la différence entre Ajoie et Rapperswil. Rapperswil a réussi à enchaîner des matchs victorieux. La confiance est là, tout roule. La Ajoie, c'est le contraire. Alors que pour moi, la qualité entre les deux équipes, elle n'est vraiment pas très, très grande.
Oui, ça c'est incroyable, c'est ce qu'ils font du côté de Rapperswil. Autre question, elle est un peu plus compliquée encore, désolé Yann. Le joueur suisse le plus utilisé de la Ligue fait partie des prochains adversaires du HC Ajoie. Qui est-ce ? On parle de moyenne.
De moyenne de minutes par match ?
De moyenne de minutes par match, oui.
C'est un défenseur.
Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Un autre indice, il est du côté de Langnau.
Ouais.
Un costaud.
C'est Cadno, non, comment il s'appelait l'autre ?
Non.
Tu peux jouer, Noah, tu sais.
Défenseur à Langnau.
C'est Phil...
Baltisberger.
Baltisberger. 22 minutes 28 par match, ouais. Joueur suisse le plus utilisé en moyenne de minutes par match depuis le début de la saison. Je continue. Une seule équipe a actuellement une efficacité de tir inférieure à celle du HCA. Ajoie à 6,31%. L'équipe qu'on cherche a 5,4% d'efficacité de tir. Qui fait donc pire que le HCA ?
Ça peut être Berne.
C'est Berne. Très juste, effectivement, en efficacité.
Les deux équipes en difficulté offensive. Donc
les deux équipes qui ont le moins de buts.
Logique, ouais.
C'est ça. Berne a marqué un but de plus qu'Ajoie sur l'ensemble de la saison. Et puis on termine par une question encore dédiée au gardien. Leader incontesté du championnat Davos dispose de la deuxième meilleure attaque et de la meilleure défense. Celle-ci est portée par 2 gardiens, Luca Hollenstein et Sandro Eschlimann. Alors ça, on va jouer l'estimation. Hein. Quel est le pourcentage d'arrêt de ces deux hommes ? Si je vous le demande, c'est que c'est remarquable.
Non,
et que ça se joue à
6.
Peu de choses. Non, quand même pas. On va dire qu'ils partagent des scores honorables.
Ils sont entre 94 et 95, je pense. Mais...
Einstein, 95, je pense.
Non, moins. Et pas très très loin. Hollenstein, c'est le meilleur gardien de la Ligue, d'ailleurs actuellement, 93,9%. Et Eschlimann fait à peine moins bien, 93%. Entre les deux, il y a une autre surprise, pour moi en tout cas, Pounenovs. 93,6% pour Pounenovs. 2 des 3 meilleurs gardiens de la Ligue actuellement sont à Davos.
Et juste petite précision, les trois gardiens du HC Ajoie sont passés sur la barre des 90%.
Oui, je les ai quelque part aussi. Hein. Noah à 90,2, Chachio 90 tout pile, et puis Kons 92,4. Voilà, ouais, pour les gardiens du HCA. Honneur toujours aux gardiens pour la question dédiée aux auditeurs, et ça concerne toujours 2 clubs que le HCA défiera prochainement. Sandro Zurkirchen a quitté Kloten pour un autre club de National League avec qui il patine cette saison. Donc, Ajoie joue Kloten prochainement. Ajoie jouera l'équipe de Zurkirchen prochainement. Quelle est cette équipe ? Vous avez la réponse, vous l'envoyez à bdj@lqj.ch ou via un formulaire que vous retrouvez sur rfj.ch sur la page dédiée à la bande du jeudi. La semaine passée, on vous demandait le nom du club valaisan qui a permis à Jonas Berthoud de disputer son premier match en actif. On cherchait l'équipe de Viège et on félicite Sébastien Sassi de Bévillard qui a trouvé la bonne réponse. Voilà, c'est ainsi que se termine ce podcast. Merci messieurs d'y avoir participé.
Merci à vous.
Merci beaucoup Noah d'être venu avec nous. On souhaite évidemment une belle suite de saison.
Merci à vous, merci, c'est gentil.
Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. À très bientôt.